Vous êtes toujours sur Radio PFM 99.9, on est toujours en direct dans cette journée sans écran 2 et on accueille notre premier invité. Salut Pierre.
Bonjour PFM, bonjour Nico.
Pierre Rose de l'association ACAD, anti-compteur communicant Artois Douaisis, c'est bien ça?
Tout à fait.
Une des rares associations dans le Nord-Pas-de-Calais qui travaille sur ces questions du numérique, on y reviendra peut-être après. D'abord, merci d'être là. Merci aussi parce que tu nous as donné pas mal de contacts. Hein, les interviews qu'on a réalisées aussi avant, bah, c'est par ton intermédiaire qu'on a pu avoir les contacts. Donc, merci pour ça. ACAD, comment c'est né et sur quelle idée de base?
Alors, l'idée de base, ça date de 2018. On est parti d'abord d'une critique du compteur Linky. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça a été notre première bataille. Et ça a été assez important comme bataille dans la mesure où les personnes, les individus étaient directement concernés parce que, évidemment, le compteur venait dans la maison. Et ce qui fait que on a fait un certain nombre de réunions publiques avec un nombre assez important, notamment à Lens où il y avait 600 personnes, et à Billy-Montigny également, 200, etc. On peut dire qu'on a percuté sur ce terrain dans la mesure où les gens étaient un peu réceptifs à ce problème des ondes, sur lequel on reviendra, puisque c'est toute notre problématique qui est en jeu.
Alors tu dis « on », c'est qui ce « on » ? C'est un petit nombre de personnes ? C'est des gens qui étaient déjà dans des groupes politiques ou associatifs avant ? Qui c'est « on » ?
Non, c'est des gens uniquement, essentiellement dans le monde associatif. Après, il y a effectivement un certain nombre de militants politiques qui viennent se greffer sur la structure. On ne peut pas dire qu'on est super nombreux, hein, c'est un peu le problème des associations. On est malheureusement constitué de trop de personnes qui sont d'un certain âge. On n'a pas beaucoup de jeunes. Par contre, on essaime à différents endroits, c'est-à-dire que surtout dans le Lensois et le secteur du Douaisis. Mais maintenant, avec Jeannine Busson en particulier, on a un certain nombre de contacts du côté de Boulogne. C'est pas pour empiéter, hein, c'est pas du tout pour dire on sera les meilleurs et tout ça. C'est simplement pour... comme il y a un certain nombre de personnes qui se sentent impliquées, on a profité d'aller faire un tour du côté de Boulogne à un moment donné. Et puis, toutes les communications, tous les mails qu'on reçoit, tous les messages que l'on reçoit, on y répond, quel que soit l'endroit où ça se situe, éventuellement en donnant des adresses des collectifs qui existent dans la région concernée.
Alors, tu l'as dit, le point de départ, c'est les compteurs communicants, Linky notamment, mais aussi Gaspard, les compteurs à eau. En quoi cette thématique-là, elle est importante à vos yeux et quel lien vous faites avec toute la réflexion sur les conséquences du numérique ?
Alors, effectivement, on a pas mal évolué parce qu'on n'est plus seulement sur la thématique du compteur Linky et surtout sur la thématique des compteurs communicants. Alors, compteur communicant, ça veut dire par exemple Gaspard, ça veut dire compteur eau également, qui sont connectés et donc qui émettent des ondes. Alors, le plus important, c'est effectivement le compteur Linky, dans la mesure où non seulement ce sont des ondes qui passent par l'intermédiaire des fils électriques, mais également par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le courant porteur en ligne, c'est-à-dire le CPL, et qui inonde la maison d'ondes toute la journée. Et non seulement les gens qui ont accepté d'avoir un compteur Linky en prennent plein la figure, mais également les gens qui ne l'ont pas à cause des concentrateurs qui sont situés sur la voie publique. Et donc, effectivement, on peut dire que tout le monde devrait être directement concerné par ces ondes qui posent des tas de problèmes à la fois au niveau de la santé, hein, on le sait très bien, ça pose des problèmes en particulier pour des gens pour lesquels on a une attention particulière qui s'appelle les électro-hypersensibles, qui n'est pas reconnu véritablement, enfin plus exactement l'ANSES, l'organisme national, reconnaît maintenant la maladie qui est l'EHS, Par contre, elle ne voit pas de lien entre l'électrohypersensibilité et les ondes, alors que nous, on fait le lien directement et c'est vérifié, c'est avéré dans différents pays de France, dans différents pays du monde. Et malheureusement, on est très en retard parce qu'on subit les lobbies des personnes qui veulent évidemment fourguer leur camelot. Et donc, ça, c'est une première chose. Donc, le compteur Gaspard, c'est la même chose. Il est moins dangereux dans la mesure où ça sert essentiellement pour récupérer des données. Et ce qui est d'ailleurs aussi le cas, j'ai oublié de dire, du compteur Linky. Hein, parce que avec ce compteur Linky, on a une base de données importante qui sert pour Enedis en particulier, pour inonder un certain nombre de fournisseurs, que ce soit de machines à laver, etc. Alors, Gaspard, c'est moins dangereux. Ça peut être, on peut se protéger du Gaspard. Compteur à eau, c'est pareil. Mais pour les électro-hypersensibles, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas. Et malheureusement, on a des cas où, par exemple, pour le compteur à eau, que ce soit pour Veolia ou Nouréa, des fournisseurs d'eau, ils prennent la méthode très, très dictatoriale, c'est-à-dire que si on ne veut pas changer de compteur et le remplacer par un compteur communicant, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'eau. C'est tout ce qui est le plus illégal, parce que nul n'est obligé de subir des appareils connectés s'il n'a pas donné son avis, son accord. Donc c'est une bataille, on en a encore des exemples ces jours-ci.
Alors il y a la question des ondes, il y a la question un peu de la marche forcée vers la numérisation, tu en as parlé un petit peu, il y a la question des données personnelles, tu l'as évoqué aussi rapidement, il y a la question écologique aussi qui est liée à ces compteurs, comment tu vois les choses?
Alors au niveau des compteurs, je veux parler de la question écologique, elle est très, très simple, c'est-à-dire que on va avoir une pollution assez importante au niveau des ondes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et également, je veux dire que actuellement, le fait de remplacer les compteurs, les anciens compteurs qui sont des compteurs blancs par exemple, ce sont des compteurs électroniques déjà. Compteurs électroniques, ça veut dire que ça nécessite d'utiliser l'électricité. C'est déjà une économie qui n'est pas négligeable, enfin une dépense qui n'est pas négligeable. Et aussi, le fait est que pour ce qui est du compteur Linky, c'est non seulement important de se battre là-dessus, parce qu'on a un certain nombre de problématiques, que ce soit économique en particulier, parce qu'on veut nous remplacer des compteurs alors que ces compteurs fonctionnent. Par exemple, personnellement, moi j'ai un compteur qui date de plus de 50 ans. Il fonctionne toujours. Je ne vois pas pourquoi il faudrait le changer, d'autant plus que pour l'instant, il n'y a pas de raison. Et puis c'est mécanique, c'est-à-dire que c'est facile de réparer. Et maintenant, la logique de Enedis, c'est tout simplement de ne plus jamais réparer et même de ne plus jamais aller sur place pour pouvoir vérifier la quantité d'électricité qui a été consommée. On n'a plus de contrôleur. Donc on est vraiment dans une situation où on centralise et on veut faire payer ceux qui ne l'ont pas, on veut faire payer ceux qui n'ont pas le compteur Linky.
C'est un combat qui est compliqué parce que celles et ceux qui résistent, ils font face à des grosses entreprises qui les embêtent, quoi. En gros, il faut vraiment être motivé pour porter ces combats et puis pour aussi refuser ces compteurs communicants. C'est un combat aussi compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses techniques pour des associations. Il faut aussi beaucoup se documenter, faire tout ce travail de recherche, documentaire, scientifique, technique. Alors comment vous voyez ça? Comment vous faites face à ces difficultés?
Effectivement, on s'est formé petit à petit, parce qu'effectivement, on a en face de nous une grosse entreprise qui dépend de EDF et qui s'appelle Enedis. D'ailleurs, Enedis voudrait bien prendre son indépendance et ne pas dépendre directement d'EDF, c'est-à-dire avoir une vie, tout ce qui est plus privé. Donc, qui dit privé, ça veut dire qu'après, les prix risquent de flamber. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et surtout, évidemment, comme d'habitude, tout ce qui va être, qui ne va pas être rentable au niveau d'EDF, ça restera dans le giron de l'État, de façon à ce que les pertes soient prises en charge par l'État. Donc, sur Enedis, on a une bataille assez serrée, d'autant plus qu'ils ne se gênent pas par l'intermédiaire de sous-traitants, ils ne se gênent pas pour forcer des personnes âgées d'une part, pour forcer également certaines portes quand il y a des enfants qui sont seulement dans la maison, ça c'est déjà vu, hein. Et en plus après donner des arguments qui sont absolument faux. Par exemple, l'argument qui a été dit au départ, c'est le compteur Linky est obligatoire, soi-disant que c'est une directive européenne. C'est archi faux, parce que quand on voit ce qui se passe en Allemagne, qui n'a pas un monopole comme en France, eh bien tous les fournisseurs d'électricité ont dû faire marche arrière lorsqu'ils ont installé les compteurs du style Linky. Donc en France, on est dans un système très centralisé, et donc on a affaire à des vauriens à certains moments, des escrocs, et on le voit assez régulièrement, et les gens se plaignent, et quelquefois il est trop tard, parce que au niveau de la justice, c'est très difficile de faire des dossiers qui puissent faire jurisprudence, surtout que Enedis fait en sorte qu'elle ne fait surtout pas appel quand elle a perdu, parce qu'elle a trop peur que le Conseil d'État nous donne raison et qu'on on bénéficie de ça pour pouvoir après montrer qu'actuellement on a une politique qui est tout ce qu'il y a de plus dictatorial.
Vos détracteurs vous accusent souvent de technophobie, des gens qui refusent le progrès. Comment tu vois un peu cet argument ?
Alors, effectivement, on s'est orienté vers la critique de la 5G, la critique de la numérisation, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais sur le fait que la technophobie, c'est un terme qui est tout de même assez gênant peut-être pour nous, mais... Le fait est que ce qu'on ne veut pas, c'est du progrès technologique à tout prix. C'est-à-dire que on veut bien du progrès. C'est ce qu'on disait dans certaines réunions. C'est-à-dire que, par exemple, le progrès, c'est peut-être un exemple mal choisi, mais quand on avait une voiture avant, on pouvait, si elle tombait en panne, on pouvait assez facilement réparer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, que ce soit pour des voitures dernier cri, et surtout pour les voitures électriques, il n'y a pas de problème. On est obligé de passer par des spécialistes. C'est ça qu'on appelle le progrès. En fait, le progrès, c'est faire en sorte que l'humain n'intervienne plus nulle part. Et c'est ça qui nous motive actuellement, dans la mesure où on se bat contre l'intelligence artificielle, contre les JO avec la fameuse télésurveillance, et surveillance, je dirais presque absolue. Le progrès, oui. Le progrès humain, oui, bien sûr. Mais pas le progrès technique, technologie surtout. C'est-à-dire que, pour l'instant, on en est à accepter tout et n'importe quoi. Et on peut le voir avec l'intelligence artificielle, et on peut le voir avec les difficultés qu'a exposées Jeannine Buisson d'une part, qui a exposé Marilène Ficot également. C'est-à-dire que on est dans une situation où les parents ne sont plus en situation de se battre contre la prolifération des smartphones chez les jeunes, et ça fait une catastrophe pas possible. Alors, je ne mets pas en cause les parents. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est tellement vicieux au niveau de tout ce qui est logiciel, nouveau logiciel. Ça laisse croire, et même des psychiatres le disent, ça laisse croire que les écrans font apprendre quelque chose aux enfants. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Je suppose que c'était suffisamment développé par Jeannine Buisson et Marilène. Mais le problème, c'est que on est actuellement, et là on peut pousser un cri d'alarme sur le fait que nos politiques sont carrément dans cette optique, c'est-à-dire d'être technophiles, eux. Quand on leur pose des questions sur la 5G, Quand on leur pose des questions sur l'intelligence artificielle, ils ne répondent pas. Quand on leur pose même des questions, on a fait un super dossier sur le compteur Linky qu'on a envoyé dans toute la France, d'une part à tous ceux qui sont inscrits pour les, enfin, du moins déjà aux têtes de liste, qui se sont inscrits pour les européennes. On l'a envoyé également à beaucoup de députés, beaucoup d'élus. Pour l'instant, on a très peu de réponses. C'est-à-dire que le problème est là. On a l'impression qu'ils s'en servent. Enfin, ils trouvent que c'est pas mal. Que ce soit les Verts, que ce soit LFI, avec quelques exceptions. Hein, tout de même, il faut reconnaître que, par exemple, des gens comme François Ruffin et tout ça posent des questions là-dessus, se posent des questions également. Je ne parle pas de la droite et de l'extrême droite. Là, c'est carrément des technophiles à fond la caisse. Ils espèrent d'ailleurs que par l'intermédiaire de tout ce qui est intelligence artificielle, on va réussir à résoudre le problème du changement climatique. Alors là, c'est le comble total. C'est vraiment... là, on se bat contre une montagne.
Alors, on l'a dit, vous êtes parti de ce combat contre les compteurs communicants. Et puis donc, tu as parlé de l'intelligence artificielle, de la surveillance pendant les Jeux Olympiques. On voit que vous avez élargi aussi vos sujets, vos pistes de travail sur le numérique, sur la numérisation de nos vies. Cette réflexion, tu l'as dit aussi, est quand même largement absente du débat politique. Et puis, si on compte le nombre d'associations dans la région qui travaillent là-dessus, je pense qu'on a assez d'une main pour les compter. Comment tu vois ça? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que ça s'inscrit aussi dans une tradition politique, la décroissance, l'écologie radicale, la critique de la technostructure?
Oui, personnellement, je suis un peu dans cette optique. Je ne dirais pas que tout le collectif est sur cette optique-là. C'est-à-dire que c'est sur une optique humaine, c'est-à-dire de montrer un petit peu tous les problèmes qui peuvent se poser. Je ne vais pas développer parce que c'est pas le comment dire, ça n'a pas été analysé de cette façon-là, de façon plus approfondie au niveau du collectif ACAD. Mais je pense qu'effectivement, il faut faire le lien avec cette société dont on peut parler, que c'est une société, tout ce qui est le plus capitaliste, et qui ne s'occupe que de profit. Et on le voit. C'est-à-dire que quand on voit l'intelligence artificielle, on ne nous le vend pas globalement pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est on nous fait voir des petits exemples de start-up et tout ça. Oh, c'est super et tout ça. Oh, bah c'est bien. Bah ouais, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Et puis petit à petit, on se rend compte que d'une part, l'homme va être complètement marginalisé, va être remplacé par des machines. On le voit très bien, les différentes entreprises qu'on a qui prolifèrent dans le coin, qui s'appellent Amazon, qui s'appellent Gigafactory et tout ça. Ça crée, paraît-il, de l'emploi. Pour Amazon, c'est faux. Et surtout, ça permet à ces grosses entreprises de diminuer le nombre de personnes et de les remplacer par des robots, par des machines automatisées. Et donc, c'est notre crainte, d'une part, de faire en sorte que, et on le voit, et ça a été dit également, on le voit au niveau des enfants qui vont de plus en plus devenir un peu plus, comment on appelle ça, le crétin digital. Le crétin digital, c'est un bouquin qui est sorti, et ça montre un petit peu cette évolution. C'est-à-dire que le drame, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va arriver à ce que, sous prétexte que notre monde fournit des smartphones avec beaucoup, beaucoup d'informations, eh bien, on va avoir des enfants qui vont être super intelligents. Le problème... Attal l'a dit, et c'est ça qui est grave, quand il était ministre de l'Éducation, il a dit « c'est vrai que le niveau baisse, c'est vrai que c'est certainement dû au smartphone, mais on va résoudre le problème par l'intelligence artificielle ». C'est une réponse qui est tout ce qu'il y a de plus scandaleuse, parce que justement, cette intelligence artificielle va faire en sorte que l'humain n'aura plus rien à faire, et surtout qu'on pourra le démolir sans problème.
Tu parlais tout à l'heure des Jeux Olympiques, de la vidéosurveillance. On parle aussi de l'accès aux technologies. Il y a quand même une acceptation. Les gens acceptent tout ça parce que c'est facile, parce que peut-être qu'ils ont peur, pour différentes raisons. Alors comment tu vois cette acceptation générale et comment vous faites face à cette acceptation générale?
Alors, c'est effectivement vrai que je suis en train de prendre des notes parce qu'il y a deux questions. Et donc, le premier problème, c'est qu'effectivement, notre société, depuis, je dirais, comme je commence à devenir un peu vieux, je peux constater que depuis 68, on a pensé qu'on avait gagné. Et le problème, c'est qu'on n'a pas gagné. Et par contre, ceux qui étaient en face de nous ont réfléchi et ont évolué et ont réussi à mater le collectif qui pouvait exister à une certaine époque. On le voit très bien dans la région, hein, c'est-à-dire que dans d'autres domaines dans lesquels je suis aussi impliqué, c'est difficile de faire bouger les gens. Pourquoi ? Parce que d'une part, on est une région, on est désindustrialisé, donc on est complètement tout nu et on se retrouve sans espoir de voir quelque chose, si espérer des emplois, mais des emplois de plus en plus esclavagistes à certains moments. Bon, et donc on est vraiment dans une société individuelle, incroyablement individuelle. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur de... Comment il faut faire face ? Alors, nous, notre problème, je ne dis pas qu'il est relativement simple, c'est-à-dire que on prêche dans le désert, actuellement. Et si on ne fait rien, il faut se souvenir de ce qui a été dit, si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Si on se bat, on peut espérer gagner. On peut espérer. Mais il faudra continuer, parce que c'est un combat principal. Je dirais que ce combat, c'est même le combat primordial qui est mis de côté par nos politiques. Et c'est tout de même très dangereux et très grave.
Peut-être une dernière question, Pierre, c'est sur la stratégie, parce que tu as parlé de lanceurs d'alerte. Il y a aussi une partie du discours qui fait peur. Hein, si on écoute par exemple Fabien Lebrun, bon, bah, ça fait flipper un petit peu ce qu'il dit sur l'enfance et les écrans. Est-ce que justement cette stratégie un petit peu, elle n'est pas un peu contre-productive ou on est en train d'imaginer comment serait le futur ? Est-ce que on n'est pas un peu dans la prospective ? Enfin, comment tu vois un peu les choses par rapport à cette stratégie de faire peur aussi, quoi ?
Ouais. Alors effectivement, je vais donner un exemple qui n'a pas dû être donné par Janine. Nous, on met l'accent, on va mettre de plus en plus l'accent sur les enfants. C'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils pratiquent, pour pouvoir après faire ce qui a été fait par exemple à Oualers, près de Valenciennes. Et je trouve que c'est une initiative remarquable, c'est-à-dire que c'est à partir d'un bouquin de Sophie Rigal-Goulard qui s'intitule « 10 jours sans écran », ils ont fait une pièce de théâtre. Et l'avantage de cette pièce de théâtre, c'est que à partir de là, on peut impliquer d'une part les jeunes et indirectement, lorsqu'il y a une représentation théâtrale, on va impliquer les parents. Et les parents ont été impliqués dans le secteur. Donc c'est une initiative qui paraît intéressante parce que on ne parle pas en dénonçant seulement, on parle en montrant un peu la problématique de ces écrans. Et ensuite, sans culpabiliser les parents, on arrive à faire en sorte que, d'une part, ils se rendent compte de cette problématique. Et d'autant plus que si après il y a des gens qui sont très compétents là-dessus, et il y en a plein, comme Jeannine Busson, comme Sabine Duflo, comme Anne-Sophie, j'ai oublié son nom, bref, c'est pas grave. Et donc, à partir de là, il y a possibilité d'avancer sans obligatoirement faire peur. Il faut aussi montrer un petit peu les enjeux, et ces enjeux, c'est pas comme on disait, je disais ce matin un copain dans le débat qu'on peut avoir entre nous, c'est que on peut être pessimiste actuellement, mais si on continue à l'être et si on ne se bat pas, c'est sûr que la société va se transformer et la décroissance n'existera pas et la société qu'on appelle transhumaniste arrivera.
Pierre, merci. On rappelle, Pierre-Rose, que tu fais partie de l'association ACCAD, A-C-C-A-D. Tu voulais ajouter quelque chose, Pierre ?
Oui, si vous voulez avoir d'autres informations sur notre collectif, vous allez sur collectif-acad.fr et vous aurez un certain nombre d'informations assez régulièrement. On ne cherche pas à faire adhérer les gens, on cherche à faire prendre conscience et à poser les problématiques qui sont devant nos yeux actuellement.